France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir le harcèlement en milieu scolaire, une violence sous-estimée par les adultes si l'on en croit une enquête que révèle le Huffington Post. En marge du cas de la jeune Sarah, 9 ans à Sarreguemines, les enquêteurs privilégient la thèse du suicide. Elle a été retrouvée morte samedi dernier. Les parents évoquent un harcèlement scolaire. Le procureur parle de moqueries infligées en raison de la corpulence de cet élève de CM2. Mais l'enquête, et on fera attention à ça, l'enquête doit encore confirmer tout cela. Et bien au-delà du cas de Sarah, on va s'intéresser ce soir au rôle de l'entourage des victimes. Comment repérer un cas de harcèlement? Comment en parler avec la victime? Comment alerter? À quel moment faut-il porter plainte éventuellement? Et puis on rappellera ce soir un numéro de téléphone, le 3018. Les responsables de ce centre d'appel estiment que chaque année, 25 à 30 élèves se donnent la mort à cause du harcèlement. On évoquera aussi le rôle du phare, ce dispositif de lutte contre le harcèlement qui a été mis progressivement en place depuis 3 ans à l'école, au collège et puis au lycée. Vos témoignages ce soir donc, vos questions, c'est maintenant 01 45 24 7000 ou bien via l'appli Radio France, le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec un premier appel de Séverine, vous êtes à Pau, Séverine, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Quelle est votre question ou votre témoignage ?
Alors moi je voudrais témoigner, donc j'ai été enseignante de nombreuses années, là je suis à la retraite, et ce que je voulais dire, c'est que lorsque à 3-4 reprises dans ma carrière, un enfant se plaignait d'être embêté toujours par les mêmes élèves, on avait tendance à minimiser ce qu'il disait. Très souvent, on dit ce n'est rien, ce sont des chamailleries entre les jeunes, c'est tout à fait normal. Nous, les enseignants, souvent, on disait, oui, c'est ça, hashtag pas de vague. Hein. Donc, il ne faut pas trop embêter les adultes avec lorsqu'un enfant se plaint. Effectivement, comme vous disiez, l'éducation nationale a mis en place le phare. Simplement, moi, je trouve que c'est un protocole avec plusieurs étapes. Et voilà, d'abord, il faut déclarer, ensuite, il faut faire ci, il faut faire ça, des documents à remplir. Et ça, c'est mon opinion. Je pense qu'il faudrait réagir beaucoup plus vite, immédiatement, en impliquant les parents et le jeune, faire un rappel à la loi, parce que, comme je dis, là, j'écris des notes, je pense qu'il est préférable de faire cela... convoquer les parents, même si c'est inutile, vaut mieux faire ça, même si ça ne sert à rien, que de passer à côté d'un harcèlement. Mmh. Voilà.
Bien, merci beaucoup de ce témoignage. Il y a beaucoup de chapitres hein, dans votre intervention, très intéressante. Pour y répondre ce soir, deux invités, le psychologue communautaire Éric Verdier, vous êtes responsable du pôle discrimination violence santé au MA, c'est le mouvement d'action sociale. Je précise que vous avez aussi dirigé l'ouvrage « Mettre en œuvre la justice restaurative en milieu éducatif ». C'est un livre qui va paraître dans une douzaine de jours aux éditions Dunod. Invité également Nora Tiran, vous êtes la mère de Marion Fraisse, qui s'était suicidée à l'âge de 13 ans en 2013. Elle avait laissé une lettre dénonçant le harcèlement dans son collège. Et vous êtes aussi, Nora Tiran, la fondatrice de l'association de lutte contre le harcèlement scolaire. L'association s'appelle Marion la main tendue. Je vous souhaite un bonsoir à tous les deux. Vous avez entendu notre première auditrice et je vais peut-être me tourner vers vous pour commencer, Éric Verdier, parce qu'en première phase de son intervention, elle disait qu'il ne faut pas minimiser la parole de la victime lorsqu'un enfant confie être harcelé. Comment la personne adulte doit-elle recueillir cette parole ?
Alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sort beaucoup plus de la banalisation aujourd'hui, grâce notamment au programme phare. Vous avez insisté, l'auditrice aussi, dessus. Mais je pense que la deuxième partie de l'intervention de l'auditrice est aussi très très importante pour répondre à la première. C'est que si on n'a pas l'alliance des jeunes, et des parents, bien entendu, d'où l'importance, j'en parlerai peut-être un petit peu après, de les former en même temps et de mettre en place un dispositif.
On a tout le temps pour parler de ça, effectivement.
Voilà. Donc je pense que pour que les adultes ne passent pas à côté, on a absolument besoin d'avoir une relation de confiance avec les jeunes et qu'ils osent parler aux adultes. Parce que réagir plus vite, souvent ce que les jeunes nous disent, c'est que les adultes réagissent trop lentement. Donc même quand on ne banalise pas, parfois on met beaucoup trop de temps pour intervenir et les enfants, eux, le temps, ça compte.
Évidemment. Nora Tiran, vous avez participé à l'élaboration du programme baptisé PHARE, donc ce dispositif de prévention et de lutte contre le harcèlement à l'école jusqu'au lycée, mis en place progressivement depuis 3 ans. Obligatoire d'ailleurs, je crois, dans certains cas. En quoi consiste-t-il ce programme ?
Alors, c'est un programme qu'on appelle systémique, qui a été expérimenté dans 6 académies, au premier degré, en école primaire et au collège. Il a été généralisé en 2021 et ensuite au lycée. Mais je tiens à préciser qu'il n'a pas été expérimenté pour les lycées. Voilà, je veux juste préciser que les outils pédagogiques qui avaient été créés doivent être adaptés au lycée. Il s'agit en fait, contrairement à ce que dit votre première auditrice, et elle a tout à fait raison sur la minimisation des faits, il ne s'agit pas d'un protocole de prise en charge post-événement ou post-harcèlement.
C'est une alerte d'abord.
C'est mesurer le climat scolaire, l'ambiance de l'établissement, ça c'est important, il faut qu'on évalue pour voir comment ça se passe. Créer une équipe ressource, au moins 5 personnes par établissement au collège et maintenant au lycée. Pour le premier degré, il s'agit de la responsable de circonscription. Former des élèves ambassadeurs, au moins 10 par établissement. Moi, mon volet, ce qu'on m'avait demandé en contribution, hein, modestement, c'était la création d'outils pour les familles, la communication, comme le disait Éric Verdier, l'alliance éducative, et la création d'outils pour les élèves ambassadeurs. Et voilà. Et puis, la mise en place d'une méthode non blâmante, qu'on appelle la méthode de la préoccupation partagée, quand les cas sont détectés, et la sanction qui doit aussi tomber, même si elle n'arrive pas souvent. Et en fait, c'est ça, c'est un programme. Le programme, il existe, il y a une labellisation, quand vous avez mis tout ça en place, ça c'est le premier niveau, et le deuxième niveau, vous devez aussi participer à la journée nationale non-harcèlement, j'en profite pour vous dire que c'est très bientôt.
Hein. C'est quand ?
C'est le 5 ou 6 novembre, le jeudi, qui suit les vacances de la Toussaint, mais maintenant c'est devenu une semaine, et tous les établissements de France réalisent des préventions auprès des élèves, des actions, convient les parents, et puis la journée du CFR Internet Day, donc le volet numérique. Donc c'est ça le programme. Il ne fonctionne, je vous le dis, puisque j'ai participé à l'expérimentation, que quand vous avez coché toutes les cases. C'est-à-dire que si vous avez une équipe ressource mais pas d'élèves ambassadeurs et que vous n'avez pas convié les familles à une formation des parents ambassadeurs et que vous n'évaluez pas le climat scolaire, ça n'est pas le programme phare. Vous luttez à l'intérieur de votre établissement dans la lutte contre le harcèlement. Le programme phare, pour qu'il fonctionne, il faut cocher toutes ces cases-là. Je tiens à le préciser, parce que souvent, on dit le programme phare, donc c'est le programme de prévention du harcèlement à l'école. C'est un acronyme.
Éric Verdier, psychologue communautaire, il faut cocher toutes les cases avant que ce programme phare soit véritablement opérationnel. Vous évoquiez l'importance du rôle de chacun, notamment des enfants, c'est-à-dire ?
Alors, nous, on a évidemment, on s'appuie sur le programme phare. Hein. Merci Nora d'avoir rappelé pour tout le monde ce que c'était les différents axes. Et en fait, la particularité du dispositif qu'on a mis en place il y a une quinzaine d'années, on a d'ailleurs participé aux premières assises contre le harcèlement à l'école à l'époque, consiste à former en même temps des jeunes et des adultes, parce que finalement, et pendant plusieurs journées, finalement, et d'ailleurs c'est très souvent sur les ambassadeurs et sur les référents phares qu'on s'appuie, pour pouvoir réussir à fissurer le mur qui empêche les jeunes de se confier aux adultes, il faut qu'ils participent ensemble à l'élaboration d'outils.
Mais
et qu'ils construisent ensemble.
Quel est le rôle qu'apportent les enfants dans la construction de cette relation de confiance et d'efficacité, on l'espère, entre les encadrants et les enfants ?
Alors nous, le programme qu'on appelle Sentinelle et Référent, il consiste à permettre aux enfants de faire 3 choses. Repérer les situations qu'on appelle nous de bouc émissaire, qui sont bien bien en amont du harcèlement. Ça commence très très vite, hein, quand un jeune est isolé, qui mange seul à la cantine. En primaire, un jeune qui n'est pas invité à un anniversaire, c'est extrêmement blessant. Évidemment, ça va jusqu'aux moqueries. Mais dès qu'un phénomène de bouc émissaire d'isolement est remarqué, les jeunes vont pouvoir apprendre à intervenir. C'est la deuxième compétence qu'on va leur transmettre. Tout ça en lien avec les adultes. Il est hors de question qu'il soit amené à faire ça tout seul. Donc, c'est toujours en connexion avec les adultes. Et la troisième compétence qu'on leur transmet, c'est ce qu'on appelle la référence. C'est-à-dire comment accompagner des jeunes vers des adultes en qui ils ont confiance, puis qu'ils ont partagé 4 jours avec eux. Et ensuite, il y aura d'autres étapes sur la justice restaurative. Je pense qu'on en parlera plus tard.
On en parlera évidemment tout à l'heure. 01 45 24 7000, le standard de France Inter. Question ce soir sur le harcèlement scolaire. Eric est en ligne. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, un grand merci d'abord pour la qualité de vos émissions et ce sujet qui mérite bien d'être abordé. Un grand merci.
Mais merci d'y participer.
Ce sera un petit témoignage et 3 questions. Une jeune fille de 13 ans qui est née avec un angiome de 5, un bel angiome sur le front. Grande situation de harcèlement qui dure 1 an, qui se finit par une tentative de suicide. Et la réponse du corps enseignant, et je parle juste de cette cité scolaire-là, hein, je ne généralise pas, a été une plainte qui a été déposée pour parents maltraitants. Je reviens 1 an plus tard à la rencontre du proviseur pour lui dire Nicolas Nienne. Mes 2 questions, est-ce qu'on peut se réunir, j'ai entendu le mot justice restaurative bien sûr, pour juste échanger, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'une enfant de 13 ans puisse vivre ça et éviter que ça se reproduise? Première question. Et 2e question, est-ce qu'on peut dire à ma fille qu'elle n'y est pour rien, mais qu'elle a été emportée dans un phénomène systémique, comme ça a été évoqué, qui la dépasse complètement? Réponse au niveau de la cité scolaire et du rectorat, jamais monsieur. Bon. Donc ça pose des questions sur y a-t-il les compétences? Y a-t-il la volonté? Et quelque part, pourquoi, pour prévenir ce genre de situation, ne pourrait-on pas faire vivre les valeurs de la République dans les écoles et les collèges, par exemple le respect?
Merci beaucoup de ce témoignage et des questions en tiroir. D'abord sur l'apparence, je me retourne peut-être vers vous, Nora Tiran, dans une cour de récréation, sur quoi s'appuie le harcèlement en général? Sur une différence, sur une apparence?
Oui, absolument. C'est en fait le rejet de la différence, c'est une dynamique de groupe et comme le disait Eric, le phénomène de bouc émissaire. On prend un stigmate, on cible la personne et on décide parce que le harcèlement, il faut le rappeler, c'est aussi la répétition. C'est pas une fois. C'est différent du conflit. Le conflit, c'est pour une question objective, plus ou moins, et on trouve un compromis. Là, il y a une relation asymétrique. D'abord, la personne n'a rien demandé, il y a l'effet de sidération, puis il y a le groupe. Même si vous n'avez qu'une personne qui l'insulte, le fait que l'adulte protecteur ne réagisse pas pour l'enfant, il considère que c'est OK. Et puis les témoins complices hein, qui aiment participer à ce genre de moquerie. Vous avez également les témoins passifs parce qu'ils ne sont pas formés. Et puis vous avez ceux qui veulent intervenir mais qui ont peur des représailles. Donc la dynamique de groupe, elle s'installe. Je vais répondre à monsieur et en même temps, tout à l'heure vous posiez la question des enfants, les sentinelles, mais nous on les appelle les élèves ambassadeurs, sont un relais. Ils sont à hauteur d'enfants puisque ce sont eux-mêmes des enfants et ils ont une confiance a priori. Ils voient des choses que les adultes ne voient pas parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que le nombre d'adultes et ils s'appuient sur l'équipe ressources. Les élèves ambassadeurs, à aucun moment, ils ont la responsabilité de la résolution du phénomène. Donc, ce que je veux dire aussi à monsieur, oui, en effet, un enfant, il a besoin de cet avis à victime. Et en effet, quand on interroge dans nos études, le fait de porter un handicap ou un stigmate visible, eh bien, ça peut susciter, même s'il n'y a pas de profil type, hein, je veux vraiment le dire, il n'y a pas un profil type d'enfant harcelé. Exactement, c'est vraiment c'est important. Et bon, c'est vrai qu'un angiome peut-être sur le visage ou le fait d'avoir un handicap ou un problème cognitif, c'est plus facile pour cette meute d'agir. Quant à la réponse qui a été apportée par le rectorat ou la cité scolaire, c'est déplorable parce que c'est pas du tout ce qui est attendu. Et il a raison, ce papa, de se plaindre. Et on doit donner un avis à victime. Et je rebondis sur votre première auditrice qui disait, il vaut mieux se tromper que de passer à côté. C'est-à-dire, nous, on ne dit pas que tout est harcèlement. Mais à partir du moment où il y a une moquerie pour éviter la répétition, une mise à l'écart, une rumeur, un enfant, c'est un signal faible. Il faut s'en emparer. Parce qu'en fait, souvent, les établissements vous disent j'ai 3 cas de harcèlement. Non, c'est 3 cas dont vous avez connaissance. Parce que c'est un phénomène invisible. C'est à l'abri du regard des adultes. Et 1 enfant sur 2 n'en parle jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment détecter, accompagner. Et quant aux enquêtes sociales, ou ce genre de retour vers la famille, oui, c'est quelque chose qui existe. Il faut lever le tabou. Et ça n'est pas normal, puisque moi, j'essaye d'être éthique. Je défends à la fois les institutions avec lesquelles je travaille, et puis les familles, parce que les familles sont désœuvrées et démunies et déploient beaucoup d'énergie pour protéger leurs enfants et convoquer les parents des harceleurs, car sans harceleurs, il n'y a pas d'harcèlement.
Évidemment. Éric Verdier, notre auditeur, parlait aussi d'un souhait de justice restaurative. Vous l'évoquiez également. On parle de quoi, là ?
Alors, on parle d'une adaptation de ce qui est fait en environnement pénal. Quand je dis adaptation, c'est qu'on ne peut pas décliner de la même manière ce que beaucoup de gens commencent à connaître, suite notamment au film « Je verrai toujours vos visages ». Lorsqu'on travaille en justice restaurative en milieu éducatif, en milieu scolaire en particulier, comme le disait Nora, on va beaucoup s'intéresser au groupe, on va beaucoup s'intéresser aux témoins. C'est eux qui doivent bouger, et pas uniquement le duo auteur-victime. On pourrait presque dire, si vous voulez, que auteur et victime sont les symptômes d'un dysfonctionnement systémique, ça a été dit à plusieurs reprises, et d'un dysfonctionnement du groupe. Et il y a une chose très très importante que je vais souligner dans ce que tu as dit, Nora, c'est que les non-interventions sont parfois ressenties et souvent comme pire que l'agression elle-même. Et en particulier, la non-intervention des adultes. En justice restaurative, c'est ça qu'on va faire bouger. On va faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas intervenus, même si pour la victime, peut-être que cette personne n'a pas vu, en tout cas c'est ce qu'elle va lui dire, pour la victime, pour celui qui est nous, bouc émissaire, on peut dire même lorsque l'enfant est harcelé, c'est absolument intolérable parce que ça veut dire qu'il soit complice, qu'il soit fuyant ou qu'il soit impuissant à intervenir. Pour celui qui est victime, c'est la même chose.
On va insister là-dessus, Éric Verdier. La victime a besoin d'entendre que son harcèlement est pris en compte. C'est déterminant, ça.
Et que l'isolement est pris en compte. Je vais utiliser une formule, à mon avis, qui résume un petit peu. La non-inclusion précède toujours l'exclusion. La non-inclusion précède toujours les phénomènes de harcèlement. Donc il faut intervenir très tôt, et ensuite il faut réparer. Il faut réparer pour la victime, il faut restaurer les relations avec les témoins et il faut faire en sorte de réinsérer l'auteur, car l'exclusion, c'est jamais la solution.
Au standard 01 45 24 7000, Jocelyne nous appelle de Pau. Bonsoir Jocelyne.
Oui, bonsoir à vos invités. Voilà, moi, très rapidement, je suis extrêmement choquée par le manque de réaction des adultes, de l'entourage ou plus éloigné. Parce que c'est inadmissible quand on voit les dégâts sur les personnes et les familles. Je comprends pas qu'on en soit encore là, mais quand on voit pendant le degré d'abrutissement de certains adultes, ça peut s'expliquer. Donc j'en viens à mon témoignage très court. Moi, il y a 50 ans, pas loin, j'ai été victime à peu près trois quarts de ma classe. On n'était qu'entre filles, et dans le privé. Personne ne m'a jamais défendue. Et un jour, en plein cours d'anglais, devant une jeune remplaçante, j'ai fait front contre toute la classe. J'avais commencé à me scarifier au demeurant, voilà. Et du jour au lendemain, ça, tout s'est arrêté. J'étais une élève trop gentille, je faisais des dessins de son snat pour tout le monde. Et depuis, il n'y a pas de hasard, je n'ai quasiment peur de rien. Je suis quelqu'un de très résilient, je pense de très ouvert. Et je suis, dans mon parcours professionnel, toujours dans l'aide, auxiliaire de vie, aide éducatrice spécialisée, et maintenant AESH, c'est-à-dire, c'est mon métier principal, c'est-à-dire que accompagnante d'élèves en situation de handicap. C'est un métier qui me passionne, mais je mettrai ma carrière et ma vie en jeu si jamais un élève n'était pas défendu.
Merci de ce témoignage, Jocelyne nous appelle de Pau. Nora Tirane, Jocelyne mettait en évidence en début de son propos le manque, elle a été choquée par le manque de réactivité, non pas forcément du milieu scolaire, mais de son entourage proche. On peut en dire deux mots de ça, hein.
Alors, je crois qu'elle disait que c'était il y a 30 ans, hein, je me trompe pas.
Exactement, ouais. Donc c'est pas vraiment...
Il faut contextualiser, le harcèlement n'existait pas. Je veux pas ramener tout à mon histoire, mais le fait que Marion soit décédée en 2013 et que moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, on n'en parlait pas, on parlait de violence en milieu scolaire, le mot harcèlement n'était pas posé. Dans les enquêtes de l'ADEP, ça arrive vraiment à la fin, on parle de violence, multivictimation. Et ça fait, moi, pour le coup, 10 ans que j'essaye d'exprimer ce sujet-là dans les médias et dans mes livres, et de dire que l'entourage a son importance justement dans la réparation et la vie à victime. Avant, on nous disait c'est pas grave, ça va passer, on n'est pas mort, la guerre des boutons, c'est comme ça qu'on grandit, un homme fort c'est quelqu'un qui frappe, vous voyez, je comprends, hein,
ça a changé depuis quelques décennies tout de même.
En tout cas, les enfants, aujourd'hui, quand vous les interrogez, ils connaissent la définition du harcèlement, ils savent ce qui est harcèlement et ce qui n'est pas harcèlement. Ce qu'ils nous reprochent, à nous adultes, hein, je me mets dedans, hein, c'est qu'on n'est pas assez protecteurs et qu'on ne réagit pas. En fait, un enfant, il vous dit, et il a raison, Eric, quand les enfants nous disent, c'est toute la classe qui était contre moi, mais le professeur est au courant. Il considère que comme un adulte est présent physiquement, Il voit, il entend. C'est pour ça qu'on forme les adultes. Et nous, on parle de former toute la communauté protectrice, c'est-à-dire les agents du périscolaire. Les enfants parlent souvent des agents de la cantine, la personne qui fait le nettoyage, qui voit si un enfant mange seul à la cantine, s'il s'est réfugié dans les toilettes, le chauffeur de bus. Vous savez, moi, je me mets à hauteur d'enfant et je regarde la vie de l'enfant dans sa journée. Il peut avoir des violences intrafamiliales, des violences dans la rue, des violences périscolaires, des violences à la cantine. 60% des violences, du harcèlement pour les enfants, ont lieu en classe. Et donc en classe, qui est l'adulte référent, c'est le professeur qui évalue et qui juge. Donc il faut former toute la communauté. Voilà, c'est ça qui est important.
Éric Verdier, je rappelle que vous êtes psychologue communautaire. Est-ce que les formes de harcèlement varient selon que la victime est une fille ou un garçon ? Alors je vais peut-être faire des caricatures, mais peut-être un harcèlement plus psychologique chez les filles ou bien un comportement plus bagarreur chez les garçons ?
Alors, je ne le dirais pas tout à fait comme ça. Je pense que ce qui est différent, ce sont les normes. Les normes, puisque tout à l'heure, on l'a dit, et c'est important d'insister dessus, il n'y a pas de profil de victime a priori. Tous les jeunes, parce qu'ils sont différents, on ne le voit pas, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts. Différents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une norme qui les pointe comme différents. Et ce qu'on a constaté, je ne sais pas si les auditeurs vont se retrouver dans cette définition, mais ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de filles sont attaquées sur leur liberté qui va évidemment jusqu'à la question de la sexualité, mais ça commence très très tôt, hein. C'est même la liberté d'habillement, la liberté d'avoir les copains et les copines qu'on veut, alors que les garçons vont être plus attaqués sur leur sensibilité. Ça, c'est un point très très important, parce que je ne sais pas si la dame qui a parlé va se reconnaître, mais moi j'ai senti beaucoup de liberté dans sa façon dont elle a pu s'en sortir, donc elle a pu oser dire « je suis comme je suis et je vous », trois petits points. Et pour les garçons, ça va être la même chose, mais ça va être du côté de « ben moi j'ai le droit d'être sensible, moi j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'avoir des dons artistiques, etc. » Et l'autre chose qui est très très importante, je pense qu'il faut dire, et Nora l'a souligné, je vais revenir dessus, c'est que quand on parle de formation, c'est former tout le monde.
On l'a dit tout à l'heure, former les enfants, oui, en même temps que les encadrants adultes.
En même temps que les parents, en même temps, j'aime beaucoup ce que Nora a dit, les chauffeurs de bus. On a eu plusieurs fois des chauffeurs de bus, parce qu'ils sont complètement démunis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ne sont pas formés et qui ont besoin d'une formation avec les enfants, avec tout le monde, pour se mobiliser ensemble et fissurer les murs qui fait qu'on n'a pas confiance les uns dans les autres.
Question ce soir sur le harcèlement scolaire. On en parle jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Oui, au standard de France Inter, il y a Mathieu. Vous nous appelez de Seine-et-Marne, je crois. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir. Oui, tout à fait. Du coup, moi, je veux apporter mon témoignage parce que je suis surveillant dans un collège. Et je voudrais dire que c'est très bien d'avoir des plans anti-harcèlement. Nous aussi, on en a mis en place. On a des belles affiches dans la cour de récréation. Mais c'est le manque de moyens qui est vraiment incroyable à ce niveau-là. C'est qu'en fait, on enlève toujours plus de personnel. J'en ai été moi-même victime cette année parce que nous, en tant que surveillants, on a des contrats à l'année qui sont renouvelés tous les ans. Et j'ai été renouvelé uniquement à mi-temps. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Ça
vous êtes à l'antenne, on vous entend, oui, on vous écoute religieusement, j'allais dire.
Et oui, du coup, on est renouvelé tous les ans. Et cette année, moi, j'ai été renouvelé uniquement à mi-temps, alors qu'on a une classe supplémentaire, parce qu'on a encore enlevé des heures pour pouvoir embaucher des surveillants. Et nous, les surveillants, on a un rôle, alors évidemment, de surveillance, mais c'est des moments qui d'échange, en fait, avec les élèves quand ils sont dans les cours de récréation, au self, etc. Et si on est moins nombreux, bah, on peut aussi, tout simplement, moins échanger avec les élèves, moins détecter des cas qui peuvent s'aggraver. Voilà, donc en fait, le manque de moyens aussi fait qu'il y a des cas qui peuvent passer totalement sous les radars, parce que ça nous demande une gymnastique cérébrale déjà très importante pour gérer le nombre d'élèves et toutes leurs différentes situations.
Merci de ce témoignage, Mathieu. Nora Tyrann, tous les plans anti-harcèlement s'accommoderont assez mal du manque de moyens dans les établissements scolaires. Vous le vérifiez aussi sur le terrain, ça ?
Oui, on travaille en France et à l'étranger. Hein. Merci Mathieu pour son témoignage. Et c'est vrai que quand on interroge les enfants dans nos enquêtes, les assistants d'éducation, les surveillants sont les premiers. Enfin, pour les élèves, notamment les collégiens et les lycéens, ce sont des interlocuteurs privilégiés parce qu'ils sont dans les zones à risque, ils sont à peu près de leur âge d'une certaine manière. Donc, ils sont très, très, très importants. Et aujourd'hui, dans le programme phare, on les a inclus, c'est-à-dire qu'ils doivent être formés. Et il a raison. Il faut plus de monde. En fait, il faut plus d'adultes. Déjà, il faut des adultes, même quand il n'y en a pas beaucoup qui soient bien formés, parce que si vous mettez beaucoup d'adultes mais qui regardent ailleurs ou qui ne se sentent pas concernés par le sujet, ça n'a pas d'intérêt. Il faut des adultes formés qui accompagnent et qui prennent en charge et surtout qui deviennent des référents protecteurs pour l'enfant. Et il faut travailler en pluricatégoriel. Par exemple, au premier degré, en primaire, il faut vraiment travailler. Nous, quand on forme les agents du périscolaire, on leur demande d'avoir un cahier de transmission avec les professeurs. Parce que si un enfant, il a mangé seul à la cantine ou il a été battu à la récré, forcément, il va retourner en cours, il sera anxieux, il ne sera pas dans les apprentissages et c'est perdant-perdant. Donc, il faut vraiment travailler. En France, c'est particulier. Vous avez les agents du périscolaire qui dépendent du territoire et puis vous avez les agents de l'éducation nationale. Il faut travailler ensemble pour le bien commun et pour l'enfant. Mais il a complètement raison. C'est un vrai sujet, les moyens et la formation.
Vous faites le même constat, Éric Verdier ?
Ah bah oui, on peut aller que dans ce sens-là. Je pense que c'est absolument essentiel. C'est à la fois des moyens, bon, comme ça a été dit, je ne vais pas revenir dessus. C'est aussi ne pas avoir en tête que si on forme des jeunes et qu'on forme des personnes dont a priori ce ne serait pas la mission, ce n'est pas pour qu'ils supplé aux autres, c'est pas du tout ça. C'est pour que justement leur donne la possibilité de pouvoir référer les situations qu'ils ont observées, comme Nora l'a dit. Et puis il y a autre chose sur laquelle je voudrais revenir quand même, c'est que il faut aussi des moyens pour la réparation. Je vais revenir sur la question de la justice restaurative. Mm-hmm. Le harcèlement, c'est un traumatisme. Et on ne sort pas d'un traumatisme collectif comme ça. Alors bien sûr, les accompagnements individuels sont fondamentaux, mais parfois il y a une espèce de biais, si vous voulez, dans le fait de dire à la victime « tu veux aller voir un psychologue », comme si, entre guillemets, c'était elle qui était responsable de ce qui s'était passé. Je pense que c'est vraiment au niveau collectif qu'il faut accompagner, et réparer le traumatisme, c'est réparer avec ceux qui ont eu un impact sur ce traumatisme vis-à-vis de ceux qui en ont été victimes.
Ça veut dire que face à la violence du harcèlement, il y a des cas où il faudrait même protéger l'intégrité physique, morale, mentale de l'enfant, par exemple, en l'exfiltrant de l'école, on peut aller jusque-là ?
Bah, quand il n'y a pas d'autres possibilités, bien sûr, hein, je pense que beaucoup de parents font ça, mais l'idée, c'est de ne pas faire ça, justement. L'idée,
parce que ce sont harceleurs d'être mis à l'écart, pas harcelés, en principe. Bah,
encore une fois, si on est centré uniquement sur le harceleur, on ne travaille pas sur la dynamique de groupe. Donc, je vais revenir sur un point que j'ai développé tout à l'heure, et Nora a insisté aussi dessus, c'est sur l'ensemble de l'établissement, et j'inclus les parents, j'inclus les partenaires de l'établissement, qu'il faut pouvoir travailler pour que, non seulement on repère plus vite, on intervienne plus vite, mais ensuite, une fois qu'on est intervenu de manière communautaire, tous ensemble, il y a une réparation.
On va aller faire un tour au standard de France Inter. Il y a Cédric qui nous attend. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Finistère.
C'est ça, moi je suis assistant d'éducation donc dans un lycée public du Finistère et un gros lycée, hein, 1400 élèves. Et donc en fait, la méthode phare chez nous, elle est quasi inexistante. On n'a pas trop d'informations là-dessus, on a plutôt l'impression que c'est réservé au collège et parfois on se sent un petit peu démuni en fait par rapport au harcèlement. Et je me posais la question de savoir si cette méthode, elle était réellement déclinable dans un lycée et d'autant plus dans un gros lycée.
Et vous êtes dans quelle ville? Je peux me permettre de vous poser la question?
Morlaix.
À Morlaix, vous êtes plaid de Morlaix. Nora Tyrann, vous l'avez dit en début d'émission, hein, pour l'instant c'est encore dans les lycées, le dispositif phare est encore expérimental?
Je ne sais pas si l'expérimental, je veux vous dire, on a travaillé sur le premier degré et les collèges dans l'expérimentation et un jour... il a été décidé de généraliser au lycée. Mais vraiment, les outils qui ont été créés ne l'ont pas été pour le collège.
Parce que pour être bien clair, ce programme phare, il est obligatoire où ?
Il est obligatoire dans tous les établissements français d'écoles publiques.
Mais pas les lycées.
Si,
les lycées. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on a créé, c'est à partir de... On a tenté des choses, et notamment l'Académie de Rennes, qui faisait partie des académies expérimentales, mais on a testé, on va dire, sur des cohortes de collégiens et des enseignants de collège et d'écoles primaires. Pour le lycée, on a dit, bon, bah voilà, on prend le package collège, on le met au lycée. Mais le lycée, c'est complètement différent. En plus, Vous savez, le collège, c'est un collège.
On est plus vieux.
Non, c'est autre. Enfin, pardon, je vais vous dire oui, on est plus
allez-y,
vieux.
Allez-y, contredit.
Vous avez raison, on est plus vieux, mais surtout, le collège, c'est un collège unique, d'accord ? Il n'y a pas de spécialité, il n'y a rien. Le lycée, vous pouvez avoir des lycées généraux, des lycées technologiques, des lycées agricoles, des lycées pro, ce n'est pas la même population, ce ne sont pas les mêmes problématiques. Par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez, est-ce qu'il y avait un profil de violence en fonction du genre ? Nous, dans nos enquêtes, oui, les filles, le genre féminin indique que c'est plutôt des violences en effet sexistes, des violences psychologiques, des rumeurs, et puis pour les garçons, plutôt des violences physiques. Vous arrivez au lycée, on ne forme pas sur la même chose, on va plus parler de sextorsion, on va avoir des outils sur le revenge porn, donc la vengeance à caractère pornographique, l'homophobie, le sexisme, et tout à l'heure Eric le disait, s'attaquer à la liberté, on le voit dans le primaire, dans les enquêtes de l'ADEP, les filles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent, un garçon n'a pas le droit de... n'a pas le droit, il a le droit, mais on lui impose la pression du groupe, la norme du groupe, d'avoir un côté artistique, c'est pour ça qu'il faut développer les compétences psychosociales. Donc le lycée, oui, il a raison, votre auditeur, et je veux lui dire... Les outils n'ont pas été créés. Nous, on intervient partout et également dans les écoles.
Pardon, mais je ne comprends pas. Si c'est obligatoire, comment se fait-il que dans certains lycées, les outils ne soient pas créés ?
Je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale.
On parlait des manques de moyens à l'instant. Pierre Verdier.
Éric Verdier.
Je suis
tout à fait d'accord avec le fait que, puisque c'est normalement imposé partout, ça devrait être partout. Maintenant, la réalité est la réalité. On ne peut pas faire rentrer la réalité dans une case quand ça ne veut pas rentrer. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des dispositifs qui existent, qui sont antérieurs au programme phare, qui viennent complètement en complément et en synergie avec le programme phare. C'est le cas de Sentinelle et Référence, c'est le cas des pères médiateurs, c'est le cas de différents dispositifs. Et on s'est rendu compte qu'il y a des collèges ou des lycées dans lesquels on a implanté des dispositifs il y a 15 ans et ça existe encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on répond à un besoin réel des équipes, et évidemment la vie scolaire doit être en tête sur ce type de besoin, le programme phare il va beaucoup plus facilement s'appliquer parce que ça suppose encore une fois qu'on a accompagné les personnes sur le terrain, qu'on les a formées et qu'on les a pas laissées uniquement avec des directives. Donc je ne vais pas me permettre de me prononcer sur la situation particulière évidemment, comme Nora l'a dit, de ce lycée. Mais il y a des moyens qu'on peut aller chercher. Et il y a des financements à trouver, par exemple dans les ARS, par exemple dans les cités
les agences
éducatives.
Agences régionales de santé.
Exactement, dans les fondations. On peut trouver de l'argent aussi pour faire venir des opérateurs associatifs et mettre en place un dispositif, c'est possible.
Silver nous appelle de Strasbourg. Bonsoir Silver.
Bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Eh bien, écoutez, je voulais témoigner d'un cas particulier qui n'a peut-être pas été abordé. Mon fils, il y a 8 ans, il avait une dizaine d'années, il était en CM1, a été harcelé par sa maîtresse qui prenait plaisir à l'humilier devant tous ses camarades en classe, en le traitant de tous les noms parce qu'il ne répondait pas parce qu'il avait peur. J'en ai d'abord référé à la maîtresse, on a eu des rendez-vous avec elle. Ça ne s'arrangeait pas, on en a référé à la directrice, qui a protégé son enseignante, et on a dû en référer au rectorat qui a tapé sur les doigts de l'institutrice, qui s'est calmée avec mon fils, mais qui l'année d'après a repris ça avec d'autres élèves. Et on a également appris que l'institutrice avait été mutée d'une autre école pour les mêmes raisons. Donc on l'avait mis là parce qu'elle avait harcelé des élèves avant. Et j'ai trouvé qu'un peu tout le monde au sein de l'école faisait bloc autour de cette institutrice. J'ajoute également que mon fils, en fait, avant qu'on comprenne qu'il était harcelé, avait la boule au ventre avant d'aller à l'école, avait des maux de tête qui pouvaient être très violents. Et il a dû être hospitalisé pour une suspicion de méningite notamment. Il a dû subir des examens médicaux assez douloureux à cause de ça, avant qu'on se rende compte de ce qui se passait réellement.
Merci beaucoup de ce témoignage, Silver, de Silver à Strasbourg. Nora Tirane, on a entendu hein, le cas d'une maîtresse qui harcèle un élève. Est-ce que l'institution n'est pas toujours assez ferme ? C'est vous qui parliez, je crois, de pas de vague dans l'éducation nationale.
Non, c'est pas moi. C'est pas
je l'ai entendu ce soir.
C'était Eric.
C'est un auditeur. Oui, oui. Non, c'est un auditeur.
Un auditeur.
C'est un auditeur. Je vais répondre à madame si vous êtes d'accord. Nous, dans notre enquête, que j'invite vos auditeurs à la lire, hein, c'est le baromètre 2023, on a demandé aux élèves le harcèlement, il a été mis en place par qui, selon vous ? Donc, la meute, hein, les élèves, et pour 7% des élèves, par le professeur, et 4% un autre adulte de l'établissement. Donc ça veut dire qu'une fois sur 10, l'enfant est harcelé par le professeur. Donc c'est quelque chose qui existe, il faut lever ce tabou. Il y a deux raisons. Il y a une raison parce qu'il y a des professeurs qui sont maltraitants, comme il y a des professionnels qui sont maltraitants dans tous les métiers. Et puis, je reviens sur la formation, c'est peut-être un peu mon dada, il faut les former sur la posture éthique. Voilà, on est
qu'est-ce qu'on appelle une posture éthique ?
C'est-à-dire qu'on doit avoir vis-à-vis de l'enfant une posture de professionnel. On ne doit pas être violent dans sa parole. On doit avoir une posture vis-à-vis des autres élèves pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de moquerie. C'est-à-dire que si vous, vous initiez cette moquerie, par exemple, moi, je considère qu'on ne doit plus mettre un enfant seul au tableau. On doit lui demander s'il est d'accord. On doit lui dire, si on sait qu'il a des difficultés d'écriture ou qu'il est dyslexique, qu'il a le droit de faire des fautes d'orthographe, qu'il a le droit d'écrire à sa façon pour ne pas être moqué. Et moi, quand je fais des interventions et que je forme, en tout cas, Marion l'a main tendue, on forme des élèves ambassadeurs, il y a toujours 3 élèves au tableau. Voilà, c'est comme ça, il y en a toujours 2.
Je
ne
sais pas si on parle de harcèlement dans ces cas-là, on parle peut-être de protéger l'enfant. Bah, on n'a pas défini le harcèlement, enfin j'ai entendu que c'était... J'ai entendu que c'était quotidien, répété...
Non, pas quotidien, justement.
Répété, pardon. En tout cas.
Oui, en fait, le harcèlement, ce sont des violences, donc une volonté de domination, une logique de domination, violences qui sont verbales, physiques, psychologiques, sexistes, sexuelles, mm-hmm. Elles peuvent se cumuler, elles sont répétées, et c'est dans le cadre d'une dynamique de groupe que nous on appelle la meute, hein, vous l'appelez comme vous voulez, et qui prend pour cible une personne, une proie. Et ça se passe dans la cour de récré, ça se passe dans la classe, ça se passe dans les transports scolaires, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc c'est ces violences répétées, mais elles ne sont pas forcément quotidiennes. Ça peut être le lundi, en anglais, puis plus rien, et 2 semaines plus tard au sport, et dans un groupe WhatsApp. C'est toujours cet effet de stratégie, de surprise, dans différents endroits. Donc c'est pas quotidien, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et c'est ça qui surprend les enfants. Ils vous disent toujours, ouais mais c'était mes amis, c'est à nouveau mon ami, mais je me retrouve dans sa classe, mais en fait c'était juste une blague, voilà. Et donc c'est cette répétition de violence qui isole la personne et qui l'amène à se dire, soit bah, c'est comme ça, je peux rien y faire parce que les adultes sont pas intervenus, ou parce qu'ils cautionnent en participant aussi, hein, parfois des petites blagues qui permettent au groupe de s'infiltrer dedans, et les témoins qui n'agissent pas. Donc,
je vous coupe, Nora Tirane, il reste quelques secondes. Oh, mais vous êtes très intéressante. Éric Verdier voudrait conclure.
Juste pour dire que les adultes sont des êtres humains et que tout ce qu'on a évoqué par rapport aux jeunes, ça se produit aussi chez les adultes, ça se produit entre adultes également, d'où l'intérêt de pouvoir les former en même temps que les jeunes. Et moi, j'ai envie de dire une dernière chose, c'est que, et ça rejoint le travail sur les CPS, les jeunes nous apprennent tout autant qu'on leur apprend quand on est ensemble avec eux et qu'on construit ensemble des pistes de solutions.
Merci à tous les deux. Le téléphone sonne, c'est terminé. Merci de votre intervention et j'espère qu'elle aura été entendue. À suivre, l'heure philo.